France Inter.
La bande originale, bienvenue avec Leïla Kadoumoudadi, Lisa Delmoitier, Mélodie Fontaine, Laura Domange, Tanguy Pastureau, Aldelas, Daniel Morin. Et Daniel. Nos invités, Elisa Erkin, et Baptiste Kaplan.
Baptiste,
France Inter, bande originale, Leïla Kadour et Nagui.
C'est nous. Super. Ouvre tous les potards en même temps.
On est mardi.
C'est génial. Mettons tous les jingles.
Bienvenue
en même
Elisa.
Temps.
J'adore.
Encore un jingle. C'est ça. Mais ouais. C'est la bande originale. On a mis jingle.
Je vois ça. Bonjour.
Je vous préviens. Qui êtes-vous?
Quel jeu? Baptiste Le Caplin.
Ah, c'est vous.
Kev Adam sans moins cher.
Pour le moment. J'aurais pas dit ça, mais.
J'adore le pitch. Non, moi je vous vois plutôt à la Hugh Grant français.
Oh non.
Bah quoi?
Pas touché à Hugh. Il est trop fort Hugh.
Mais si, je trouve que vous êtes dans cette comédie romantique, on est dans non pas à Notting Hill, on est à Avignon.
Oui.
Une belle comédie romantique, incarnée par Elisa Erkin et Baptiste Kaplan, avec ce film qui a été présenté dans plein de festivals, qui a reçu même des prix dans des festivals, qui se passe à Avignon, d'où son nom finalement. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de brainstorming en se disant « et si on appelait ça Avignon ?» Ça a été un court-métrage dans lequel vous étiez, Elisa, dès le début.
Oui, tout à fait.
Et vous êtes... Johan ou
c'est Johan
il préfère Johan. Johan Dionnet, superbe acteur, extrêmement drôle, réalisateur et auteur de ce film. On va en parler de cette comédie romantique qui se passe à Avignon, puisque la prétention de dire on ne dit pas à, on dit en Avignon, c'est faux.
Un enfer.
Voilà.
Ouais, c'est... Ouais.
Non, mais c'est on peut dire à Avignon.
On peut dire
et
ce
vous,
qu'on veut.
Et vous avez tous ou toutes participé, j'imagine, à ce festival.
Ouais.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est le point de départ d'ailleurs du film, il y a le IN, on va dire le truc un peu officiel, c'est que le soir, c'est très organisé.
Non, c'est pas le soir, c'est pas que le soir, c'est toute la journée le IN. Il y a des spectacles à 10h30 le matin.
C'est le OFF qui est toute la journée, non?
Non, c'est une programmation, mais c'est toute la journée.
Mais personne n'y va, il fait trop chaud.
Non, c'est pas vrai, j'y vais moi.
Du matin au soir,
ouais,
il y a
bien
le...
sûr.
Ok, très bien.
Bien
alors, c'est public.
C'est public. Le IN, oui.
C'est la programmation et public, absolument.
Enfin, et après, il y a toutes les salles privées qui peuvent partir de 20 personnes jusqu'à plus, avec clim ou sans clim. Et on va dire qu'il y a.
La différence, c'est la programmation, pardon, je t'interromps, mais c'est ça, c'est que le IN, c'est une programmation d'un directeur qui fait la programmation du festival. Le OFF.
C'est le chaos.
Bah, tu payes pour avoir une salle et pour te produire. C'est pas du tout la même.
Et puis, il y a aussi deux genres de théâtre, c'est-à-dire qu'il y a le classique. Le reconnu, le CID, ou alors Laura, tu veux apporter une précision?
Non, c'est aussi ça, j'apportais.
La bondée.
En fait, je précisais aussi que c'est vraiment le IN, c'est le théâtre public, et le OFF, c'est privé. Privé, c'est comme
très bien.
Tu disais.
Très bien, ok. Voilà. Donc, à partir de ça, il y a aussi le jugement qu'il peut y avoir entre acteurs qui jouent du classique ou qui jouent de la comédie de boulevard, et c'est cette tension-là qui naît dans votre rencontre. Mais faisons un petit tour de table, vous avez, j'imagine, tous déjà été soit spectateurs, soit carrément actrice ou acteur à Avignon. Lisa, qu'est-ce que tu as comme souvenir, Lisa Delmoitier, d'Avignon? Un souvenir, un seul.
C'est l'époque où je jouais le CID.
Bien sûr. Bonne vanne.
Non, c'était mon spectacle CID, avec 15 minutes de blague de bite, là. souvenir, beaucoup de liquide. Beaucoup d'alcool, beaucoup de sueur et je dois dire des larmes aussi.
C'est joli. Mélodie Fontaine, souvenir d'Avignon.
Alors moi j'ai un souvenir en particulier où je jouais trois pièces en même temps. Je faisais deux comédies et un drame le soir.
What?
Et ça s'appelait donc le soir une nouvelle génération à 22h15 alors que j'en avais une à 10h du mat pour enfants et une à 14h comédie.
J'ai fait des vrais
Avignon et le soir il y avait de la terre sur le plateau, c'était un peu plus drame tout ça et j'étais à fond et mon doigt s'est retourné. Et je commence à faire un malaise. J'ai fait qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça aille mieux, et il y avait un tas de terre et j'ai fait tiens je vais mettre mon doigt dans la terre, ça doit être plus frais. Donc pendant la représentation je commence à m'allonger en mettant mon, et tout le monde me regardait en disant mais qu'est-ce qu'elle fait à mettre sa main dans la terre.
C'est une création artistique.
C'était le IN.
Et les pompiers m'attendaient à la fin, j'étais à l'hôpital, évidemment ma troupe est pas venue me chercher parce qu'ils allaient à une soirée du IN, justement. D'accord. Donc ils sont venus à 4h du mat, j'étais toute seule avec mon doigt dans dans mon truc. Horrible. Pas dans mon truc, mais mon doigt. Mon ben doigt ça, dans une attelle. Et j'attendais tout le monde, c'est théâtre.
C'est mal signe, si ça rafraîchit.
Moi, avant de. Enfin, je voulais être comédienne, etc. Mais bon, bref, quand j'avais 20 ans, pour gagner de l'argent, je distribuais les tracts à Avignon.
Fameux tracts, évidemment. Il n'y a pas d'Avignon sans tracts.
Voilà, pour une boîte de production qui m'engageait pour distribuer des tracts. Sauf que vous imaginez bien, je devais tracter 6 heures par jour. Vous imaginez bien qu'ils n'étaient pas
que
toujours derrière
moi. Que tu les jetais de temps en temps à la poubelle ?
Non, jamais.
Tu faisais quoi ?
Par contre, parfois, j'allais voir des spectacles pendant les heures de tractage. Voilà.
Est-ce que tu t'es fait gauler en allant à un spectacle ?
Pire, puisque j'arrive au comptoir pour acheter ma place et c'était la productrice qui m'embauchait et qui... J'allais voir un spectacle d'elle. Et ben alors, qu'est-ce que tu fais là ? Et ben, je parlais pour parler d'un spectacle formidable pour lequel je tracte.
Les souvenirs, Leïla, d'Avignon ?
Plein en tant que festivalière, mais j'ai bossé aussi pour tourner des documentaires en temps réel. C'était pour France 3, c'était un truc un peu fou. Les nuits, et puis surtout un jour me retrouver dans la cour d'honneur du Palais des Papes, enfin sur la scène magistrale de nuit, alors qu'il n'y a plus d'artistes dessus, mais avec les équipes techniques. Et au sol, il y avait les tracés en cercle de Anne-Thérèse de Kessmaker, qui venait de faire sa chorégraphie avec Boris Sharmat, je me souviens. Et on était là, la nuit, comme ça, dans cet espace à ciel ouvert, à courir, un peu ivre.
Mais c'est vrai que la ville est un énorme décor de théâtre. C'est le décor d'ailleurs même du film, et c'est un lieu absolument magique, Avignon. Tu as beaucoup fait Avignon, Tanguy ?
Non, une fois, mon premier spectacle sur 10 dates, et super, quoi. Il n'y a pas grand-chose à en dire.
Que des bons souvenirs.
Ouais, que des bons souvenirs, vraiment très agréable. L'été, j'avais une villa pas loin, à 10 kilomètres. J'ai vécu un Avignon de bourgeois, bien sûr.
Est-ce que tu as tracté ?
Bah non. Mais j'avais plus l'âge déjà de faire tout ça. J'ai commencé la scène, j'étais déjà vieux, donc.
À propos de vieux, Daniel Morin, est-ce que tu vas faire Avignon avec ton spectacle ?
C'est hors de question. Mais j'ai un souvenir d'Avignon où j'allais en plus, parce que j'étais avec quelqu'un qui participait au festival, et j'étais dans une grande villa avec piscine, et je voyais certains humoristes compulsés de grands classeurs avec des vannes américaines qui avaient été traduites.
Ok. Il a balancé aucun nom, t'as vu. Holdelaf, est-ce que tu as déjà été au festival d'Avignon ?
J'ai fait plusieurs fois le festival d'Avignon.
On va préciser quand même pour ceux qui ne le connaissent pas, ce festival, ça a lieu en juillet, donc il fait extrêmement chaud. La mer n'est pas vraiment à côté, il n'y a pas vraiment d'air frais non plus. Tous les théâtres n'ont pas la clim, et qu'en effet, c'est du H24, les terrasses sont blindées, les gens distribuent des tracts, il y a des parades.
On voit les mêmes gens qu'à Paris, mais rouges de visage.
C'est ça.
Et tous en Birkenstock, donc c'est des gros traumatismes.
Oui. Et certains font même des extraits de spectacles dans la rue, ceux qui ont des spectacles, et puis certains qui n'ont pas de spectacle, en donnent aussi dans la rue pour exister, pour essayer d'espérer qu'un producteur ou qu'un metteur en scène les repère, parce que le tout Paris, normalement, du théâtre privé comme public, se trouve là-bas. Holdelaf ?
Moi, en effet, le problème, c'est la durée d'Avignon, qui est un grand apéro.
C'est 15 jours,
C'est
15 jours pour le in et 3 semaines pour le off.
Non, tout pareil.
Je veux absolument qu'on
me les oppose.
Viens au in.
Je croyais.
C'est ça.
On décale et le in commence avant, termine avant.
D'accord.
C'est un grand apéro qui dure pendant 20 jours, où tu croises que des gens que tu connais, qui sont hyper sympas, qui viennent, on prend un verre. Et moi, j'ai réussi à faire de la goutte pendant Avignon, ce qui n'est pas très sexy.
De la goutte.
Et je savais pas si c'était de la goutte au début, si c'était une infection, une allergie au zinc des bars. Donc, pour te dire que c'était pas très bon signe.
Une allergie au zinc des bars.
Je savais pas soit ça, mais c'était de la goutte au final. Voilà.
La honte. Faut une intervention.
Alors, moi, j'ai vécu Avignon avec ma douce et tendre. Non, mais c'est pas ça. C'est avec ma femme qui me dit je vais faire Avignon. Est-ce que tu viens ? Donc, pendant, en effet, 3 semaines.
T'es resté 3 semaines ?
Elle se retrouve dans un studio.
3 heures,
en jouant matinée et soir, deux pièces différentes. Et dans des. Voilà. Et donc, je me dis je vais quand même aller voir pendant 2-3 jours comment ça se passe. J'avais envie, au deuxième jour déjà, j'avais envie de partir. Parce que j'étouffais dans la rue, qu'en permanence, il n'y avait pas 2 secondes où on pouvait s'arrêter pour boire un verre, parce que soit il fallait tracter, soit il fallait aller voir un tel, soit il y avait des rendez-vous, soit il y avait une soirée, soit il y avait un concours de ping-pong, comme au Bélier.
Oui,
soit il fallait absolument absolument voir un tel. Ouais. Et puis, je veux pas jouer le mec de la bande originale qui était harcelé, mais souvent aussi, oui. Toi aussi tu dois le vivre, oui. On se retrouve dans un cocktail ou une soirée avec des acteurs, des metteurs en scène, hein, qui viennent dire ah, j'aimerais bien faire l'émission, je joue ça à tel endroit, hein, venez me voir, et ainsi de suite. Et j'ai pas du tout kiffé. Non, mais j'ai pas du tout aimé. Et visiblement, il y a ceux qui accrochent et qui ne peuvent pas se passer d'Avignon, et puis.
C'est intense, quoi.
Et puis moi.
non, Elisa, c'est une atmosphère, quoi.
Aussi. Elisa, vous avez beaucoup vécu, vous, avant. Je parle pas du film, hein, mais Avignon, vous l'avez vécu.
Alors, pas du tout. Je ne l'ai jamais fait en tant qu'actrice, je l'ai énormément fait en tant que spectatrice.
Chanteuse.
Chanteuse, je l'ai fait dans une chapelle, si j'ai chanté là-bas, mais j'ai fait des one-shots, j'ai fait à Contre-Courant, qui est un festival hors les murs aussi. Et voilà, la seule fois où je devais faire Avignon, où c'était bien barré et tout, il y a eu le Covid. Donc ça, c'est un peu ma vie, en fait. C'est qui se passe, voilà.
Choisir le bon endroit au bon moment.
Voilà, ça, c'est mon timing, je suis très forte. Mais sinon, le côté troupe, monter ses spectacles et tout, je l'ai beaucoup fait, évidemment, mais
On va revenir là-dessus, parce que c'est vrai que c'est l'une aussi. L'un des ressorts du film Avignon. Baptiste Caplin, vous avez testé des spectacles, des nouveaux spectacles à Avignon ?
Je l'ai fait trois fois et je l'ai fait deux. La première fois, c'était pour mon premier one-man show, pour vendre des dates de tournée avec mes tourneurs.
Ça sert à ça, présenter des spectacles, obtenir des contrats.
Voilà, exactement. Les gens espèrent avoir une belle tournée derrière. Et donc, c'était le but la première fois. La deuxième fois, c'était pour le rodage de mon deuxième spectacle. Et c'est Thierry Suc qui m'avait produit et qui m'avait mis à Avignon. Il était totalement...
Grand producteur, Thierry.
Il produit Mylène Farmer, voilà. Je lui ai demandé de faire Avignon, il comprenait pas trop.
Rachète Avignon.
Non, il avait fait un truc très mignon, il pensait m'aider, en fait il m'a collé la honte pendant tout le festival. Je lui ai dit, je suis très mauvais en tractage, il m'a dit, non mais t'inquiète pas, on va t'aider. Et le directeur de la communication, Michael Pradignac, que je salue à l'époque, m'avait acheté des sets de table.
Non.
Et j'étais partout, et je crois que Koldelaf m'a envoyé une photo de...
J'ai mangé sur toi.
Voilà, ouais. Il a mangé sur toi. Et j'étais même pas arrivé à Avignon, tous les comédiens me disaient, eh ben mon salaud, t'es partout. Et donc j'ai évité toutes les terrasses tout l'été parce que j'avais honte d'avoir un tractage immense. J'avais ma tête et un QR code pour réserver. Je dis mais Thierry, c'est pas du tout comme ça Avignon. C'est pas Avignon,
c'est
pas
l'ambiance. C'est un peu gravir l'Himalaya sans rien porter, quoi.
Non, c'est comme vous faites la montée des marches de Cannes et vous prenez un escalator au montée des marches, quoi. C'était pas du tout Avignon, quoi. Mais j'en garde un très chouette souvenir.
Le film avec nos invités Elisa Erka et Baptiste Caplin, cette comédie romantique avec également Alison Wheeler, Lies Salem, Constance Carlet, Rudy Michan qui est juste dingo, c'est-à-dire qu'il a pas énormément de scènes, mais celles qu'il a en tout cas sont clés dans le film, est tellement tellement drôle. Et Johan Dionnet, évidemment réalisateur et acteur dans ce film Avignon, on en parle jusqu'à midi et demi, mais d'abord voici celui qui est fan de vous, Elisa et Baptiste, Oldela.
Je suis fan de Baptiste Le Caplin. Pour moi dans le trio vous êtes vraiment le numéro 1. Ça fait maintenant 10 ou 15 ans que l'on se connaît, mais le set de table c'était mon moment préféré. Je suis fan d'Elisa Erka. Elle réussit tout dans la chanson ou le cinéma. Ses initiales eux sont hyper rares, mais bon, les initiales ça veut rien dire, disait Patrick Dupont. Et vous êtes là ensemble pour le film Avignon. Une love story pendant le festival d'Avignon. J'ai adoré, sauf quand vous allez vous embrasser et qu'il y a un barburou qui vient vous en empêcher. Je le déteste. Le film aurait été beaucoup plus court. Je suis fan du film, il porte un regard critique sur le racisme entre les théâtres classiques et comiques. Croyez-moi, il y a vraiment le même problème en musique. Alors que je peux faire une jolie chanson dans ma chronique.
Attends, c'est pas fini,
Qu'est-ce qu'il va faire?
Le Cid, c'est moi, je sais. Il y a des pièces comme ça qui émeuvent et qui nous rendent fous. Dans le film, c'est Elisa.
Oldelaf, c'est parce que l'Obispo?
Oui, c'est...
Mais c'est mon chanteur chauve préféré.
Je le savais, Elisa. Le Cid, dépêche-toi, on joue jusqu'à la fin du mois. Et le rôle numéro un, je crois que c'est le Caplin, mais
tu chantes trop bien, en fait, à force.
Merci, Elisa. Comme c'est marqué dans le livre,
Jouer pour nous, c'est comme vivre. En fait, c'est pour toi que j'ai toujours chanté, Lisa, depuis le début de cette chronique.
Mais on le lave, mais moi je tiens mon secret depuis ma commotion, d'ailleurs.
Bah, c'est déjà ça. En tout cas, je l'espérais dans mon cœur. En tout cas, il faut vivre au jour le jour.
Oh, wow.
Le temps.
Oh, mais c'est ma vedette, ça. Mais c'est quoi cette chanson gnangnan que tu me fais?
C'est qui ce roux?
Mais attends, mais fais ta chanson, ton tube, là, la turpitude!
Non, c'est la turpitude.
C'est pas la turpitude.
C'est la tristitude.
Ouais. Oh, c'est pareil, je joue pas sur les mots. Hein.
Mais c'est quand même le principe de la chanson, donc.
Mais, ouais. Non, sinon fais-lui ta chanson à la gloire des nazis.
Non.
Si, si, elle est vachement bien. Non, il l'avait fait.
Tu chantes sur les nazis.
Non, mais je chante
Marie d'Orange. On s'était poilé.
C'est pas la mairie, c'était la salle culturelle.
Et en plus, tu chantes sur les nazis.
Je ne chante pas directement sur les nazis. En plus, c'était à Pâques, ça n'a rien à voir avec la
nazie. Mais je n'attire que les néo-nazis.
Non, non, mais Lisa, je pense qu'on chante.
J'ai peur d'avoir gaffé.
Mais comme à chaque fois.
Bah écoute, je m'en vais parce que moi, ce que je déteste, c'est m'incruster. Je suis une petite souris.
Une souris orange.
Oui, allez, je m'en vais. Bisous, bisous.
Bravo.
Bravo.
Vous êtes nos invités, vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Petite pièce, à lui tout seul.
Il y avait du monde sur
spectacle.
Scène.
Alors, faut quand même préciser le happening, à part Lisa, qui n'a pas de chance dans la vie avec ton histoire d'amour et Old Love. Un guest,
Mathieu Burnel, voilà, qui joue dans le film et qui vient empêcher Baptiste et Lisa de s'embrasser sur la place devant le Palais des Papes.
Je crois que Mathieu Burnel, c'est celui qui connaît le mieux la ville d'Avignon, le festival d'Avignon au monde. Ouais. C'est celui qui l'a je sais pas combien de fois il l'a fait et il est d'une gentillesse et d'une générosité. C'est trop bien que vous ayez recréé la scène, c'est trop mignon.
Et, bravo. Et notamment justement au Palace où tu es censé jouer la pièce. Et voilà, c'est Mathieu, il y est depuis. C'est un des piliers du Palace.
Ouais, Avignon. Mathieu qui joue au Théâtre Rive Gauche dans Mission Florimont, c'est bien
tout ça, jusqu'en janvier, donc tous les jours.
Et qui a été engagé par Elisa Erka pour que la scène du baiser soit interrompue avant qu'elle soit obligée d'embrasser Baptiste Caplain. C'est malin.
Quelqu'un arrête tout
gros
ça.
Budget.
Mais sans déconner, pour parler de ça rapidement,
je veux dire, il empêche un baiser, mais il y a quand même une scène de sexe.
Mais t'as qu'à tout spoiler.
Non, c'est ça, mais là,
mais j'ai pas dit que c'était Baptiste.
Moi, c'est pas forcément avec moi.
C'est vrai. Puis faut que les gens aillent voir.
C'est bizarre d'ailleurs dans le film, les gens ont pas tous aimé ça.
Non mais cela dit, c'est hyper balèze ce qu'il fait Mathieu, parce qu'en fait on fait un plan séquence avec Baptiste sans spoiler rien du tout, et le plan dure 5 minutes et il intervient à la fin de ce plan séquence. Mathieu, il a une toute petite intervention mais qui est cruciale, et s'il foire cette intervention,
faut tout recommencer
quoi. Ouais, donc le stress de ouf, il le fait super bien.
Et là on est où par rapport au pape Avignon? On est sur la grande terrasse
sur la place du
Palais des Papes,
c'est ça?
Ouais.
Qui est un peu aussi une référence. Alors, il y a beaucoup de terrasses et c'est vivant, et le Inn se passe
le Maharabata, le bar du Inn. Oui, la piscine.
D'accord.
Mais
les pièces qui viennent dans la course de l'autre côté.
Ah, c'est ça. Et dans plein d'autres lieux d'Avignon.
Non mais j'imagine que ceux qui ont vécu à Avignon voient ça comme une sorte de documentaire en reconnaissant des pièces.
Ouais,
tout est juste, tout est très vécu. Mais j'ai aussi envie de rassurer ceux qui n'ont pas, qui ne connaissent pas Avignon et le festival d'Avignon, ou qui ne connaissent pas spécialement le monde du théâtre. Old Laf l'a précisé, c'est aussi quelque chose sur les rapports, le regard que l'on peut avoir si on a la carte ou si on l'a pas, si on joue une pièce reconnue, un classique, ou si on joue les comédies boulevard. Cette espèce de racisme, tu as employé le terme.
Moi, je peux raconter juste un truc.
Ouais,
des gens que je connaissais, on prend un verre ensemble, ils disent, il paraît que ce que tu fais super, on nous en a parlé par plusieurs biais. Ah ben, venez quand vous voulez, super, tu joues au Palace.
Ah.
Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un problème. Non, mais pas de problème. Ils sont jamais venus voir parce que c'était au Palace, parce que ce n'était pas leur classe. Et c'est terrible. Ça n'a pas changé.
Ça n'arrive pas au festivalier. Il faut dire quand même que pour les gens qui y vont, qui ne sont pas du milieu, c'est la fête dans les rues, ça tracte, c'est joyeux. On ne se rend pas compte des antagonismes entre les différents milieux.
Et d'ailleurs, ça
vaut d'un côté comme de l'autre. Parce que là, tu racontes des gens qui ne veulent pas venir au Palace. Et il y a des gens qui ne veulent pas aller voir des spectacles du Inn en disant, oh, ça va être encore une performance chorégraphiée avec un mec mec qui fait AA comme ça toutes les 3 minutes.
C'est une vanne, c'est une vanne qu'il y a dans le film en, en disant ça dure 3h45. Qu'est-ce qu'il y a
La solitude des champs de coton avec Amaury de Criancourt. Amaury de Criancourt qui est un comédien absolument incroyable.
Extrêmement drôle.
Et imbuvable dans ce film.
C'est le mec le plus imbuvable à l'écran et le plus gentil au monde. C'est un acteur extraordinaire.
Il fait bien le mec imbuvable.
Il est super.
Il le fait très très bien. Il joue très bien au ping-pong, mais sinon il est bien. Non mais tout est bien, ça sonne juste. Et même Johan Dionnet qui est extrêmement
excellent.
Extrêmement très drôle attachant, dans ce film. Mais pour en revenir donc à la situation, vous êtes une actrice dans le film Elisa qui est de notoriété, qui est reconnue, qui a été moliérisée, donc qui est la star d'Avignon. Baptiste Caplain va à Avignon, enfin déjà dès le début du film, c'est 3 fois, je n'irai pas, je ne veux pas à Avignon. Et évidemment, cut, il est à Avignon.
Il y va parce qu'il a besoin d'avoir son statut d'intermittent.
Et son nombre d'heures.
Et son nombre d'heures, exactement. Voilà.
Et il se retrouve donc dans une pièce qu'il avait déjà interprétée mais qu'il avait quittée. Alors, il y a plusieurs intrigues entre la vie au sein de la troupe et l'histoire d'amour de ce couple. Mais restons sur votre histoire à tous les deux. Vous flashez sur elle, vous vous étiez rencontrés pendant lors d'un stage. Sauf que les routes ont été justement différentes. L'une est allée vers le classique reconnu et estampillé classe. Lui est allé vers la comédie de boulevard. Et il a peur de la décevoir, donc il va lui mentir pour la séduire.
Oui, il va y avoir un quiproquo, il va pas oser lui dire, parce qu'on est démarché évidemment, le truc d'Avignon c'est que vous êtes arrêté toutes les 30 secondes par quelqu'un qui vous donne un tract. Et il y a un monsieur très gentil qui vient nous donner le couple pour les nuls, et je vois la réaction qu'elle a en ayant ce tract. Et donc je me dis que c'est foutu, si je dis que je joue dans Ma Sœur Saint-Crust, c'est terminé. Et en fait elle croit que je joue dans le CID, et elle me dit je joue tous les jours, je pourrais jamais venir te voir. Et mon personnage...
Par chance, vous jouez à la même heure, donc elle ne peut pas de...
Savoir, voilà. C'est super sûr.
Et donc, je m'engouffe dans un mensonge qui va très vite me dépasser. C'est pas bien, il faut pas faire ça. C'est pas la meilleure façon de démarrer une relation.
Non, mais la force de la comédie, c'est le quiproquo.
Bien sûr.
Mais c'est moins catégorique qu'elle joue dans le sub et elle joue dans le off aussi, en fait. Ouais. C'est pas la star d'Avignon.
Elle n'est pas dans le in.
Non, mais elle a eu un Molière.
Voilà, elle a eu un Molière, elle a eu un parcours un tout petit peu plus
Elle n'aime pas les pièces de boulevard. Elle s'en moque un tout petit peu à des terrasses,
en tout cas,
entre potes.
Elle s'en moque. C'est une vanne un peu ouverte comme ça avec ses amis, avec son milieu, etc. Et puis elle pense que.
Peut-être qu'elle se donne un genre aussi.
Elle se donne absolument un genre. Et je pense que ça l'amuse. Aussi, c'est toujours marrant de se moquer c'est un côté...
Elle connaît par cœur les répliques de Chimène, elle connaît par cœur le CID, elle s'amuse à dire, tiens, refaisons une scène ensemble, toi Rodrigue, moi Chimène, allons-y, jouons dans la rue.
Évidemment,
elle adore aussi une scène des visiteurs qu'elle me demande de rejouer, donc ça prouve que c'est une
drôle,
délicieuse.
Elle est un peu gênée.
Parce que le résultat est gênant. Mais...
je tiens à dire ça, et c'est pas pour flatter Elisa, mais elle avait vraiment une partition pas facile à jouer. Il y a une scène sur la place des Corsins qui est assez dure à jouer parce qu'il faut faire passer des messages, et elle a une bienveillance dans son regard et dans ses yeux qui est palpable, et elle est vraiment comme ça, et elle a eu un truc vraiment pas facile à jouer parce qu'il fallait jouer la comédienne un peu guindée, un peu et en même temps jouer cette fille accessible et dont on tombe éperdument amoureux, et ça elle le fait très bien.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit la girl next door mignonne qu'on ait tous envie de séduire, et en même temps elle tacle deux trois fois
un peu,
on se dit elle est inabordable.
En groupe, parce que c'est ça, on a la sensation que quand elle est en groupe, elle se sent un peu obligée de trouver un peu, de mépriser un petit peu les pièces, genre ma voisine ne suce pas que de la glace, quoi. C'est un peu ça. Et en même temps, elle est entre les deux, parce que le personnage d'Amaury, il incarne le in et donc l'officiel. Vous incarnez le off, le boulevard. Elle est dans l'entre-deux. Elle n'est pas dans le in, elle est dans le boulevard, donc elle a une sorte de position un peu intermédiaire.
Et elle a envie aussi de flirter avec les deux, parce qu'il y a un truc aussi de position sociale je pense, vis-à-vis de son métier, qui est hyper important.
Mais c'est ça qui est intéressant, encore une fois, je ne voudrais pas... Ceux qui aiment le théâtre Avignon, qui comprennent tout ce que vous dites sur le in et l'off, même moi j'y comprends rien, ne soyez pas arrêtés par ce côté entre-soi de films autour du théâtre ou des coulisses du théâtre. C'est vraiment l'histoire histoires aussi que l'on pourrait retrouver dans des histoires de business, de banque, de sport ou dans n'importe quel domaine, c'est-à-dire deux mondes qui se rencontrent, que normalement tout oppose, et il y a le regard des autres et le jugement du regard des autres, et puis une histoire d'amour entre deux personnes qui ne savent pas finalement si tout les oppose ou au contraire tout les attire, et c'est une comédie romantique. Le cadre du théâtre, oui, le cadre d'Avignon, évidemment, ce qui donne un côté terrasse, drôle,
machin. C'est bien vu de mettre dans Avignon.
Mais c'est une arène.
Non, mais je veux dire par là, c'est que même si on connaît pas les codes, même si on connaît pas les adresses des noms du théâtre, Palace, Bélier et autres, on peut comprendre.
Le sujet est beaucoup plus large.
Exactement. Et c'est au cinéma à partir de ce 18 juin, ça s'appelle Avignon, c'est drôle, c'est réussi, c'est émouvant et c'est charmant. Voici Lisa Delmoitier. Parce que vous n'avez pas fait une comédie romantique sur Avignon comme ça, vous?
Non, Nagui, pourtant je l'ai dit, j'ai fait le festival d'Avignon, mais 3 ans plus tard, c'est trop tôt. Motive ce trauma. Juillet 2022, sud de la France. Je débarque sur place avec mes compagnons de peloton. C'est pas le Tour de France, hein, mais c'est un festival avec des gens qui font de la scène, donc il y aura du dopage. C'est quoi ce rire? Dans l'air, ça sent le pastis et le napalm. Dommage, j'aime pas l'odeur de napalm le matin. Ça me donne faim et j'essaye le jeûne intermittent.
C'est ça.
Comme tout bon jeûne intermittent, je dois passer par le festival d'Avignon. Au moins une fois, et cet été-là, c'est ma première fois. Juillet 2022, donc, c'est la canicule. Une chaleur étouffante. Pour reconnaître une canicule à Avignon, c'est simple. C'est quand les locaux te répètent « Fais un peu frisqué pour un mois de juillet !» Sache que la canicule t'ouvre deux perspectives. Si la salle dans laquelle tu joues n'a pas de climatisation, après chacune de tes représentations, tu auras à tes pieds la preuve scientifique que l'humain est constitué à 60% d'eau et que tes chaussures trempent à présent dedans. Mais si par chance ta salle est dotée de la climatisation, tu découvriras une autre statistique. Parmi les membres de ton public, chaque soir, 60% sont là uniquement pour la clim. Tu le sentiras à leur manque d'enthousiasme face à tes blagues, mais à leur grand sourire chaque fois que la ventilation tourne dans leur direction. Essaie de caler tes punchlines sur le passage de l'air. Tu as l'impression d'être drôle. Et je sais, 60% de ton public qui sont pas là pour te voir, c'est beaucoup. Mais rassure-toi, tu joues ton premier spectacle au Off d'Avignon. 60% d'un public de 6, ça ne fait qu'une personne. Voilà rassuré. Ceci, on me l'explique dès mon arrivée, alors que je descends du train à midi et constate qu'il fait nuit et qu'il neige. Je ne comprends pas, je panique. Ça y est, Dieu a appris qu'ils avaient moitié faisait de la scène et il a pris cela pour le signal de départ de l'apocalypse. Mais non, en fait, les locaux me rassurent, c'est pas encore pour tout de suite les 10 plaies d'Égypte avec l'invasion de sauterelles, de grenouilles et de nagui. Non, il ne fait pas nuit.
11e plaie.
Avignon est juste cerné par les incendies d'été. Le ciel noir, c'est donc en fait la fumée et la neige des cendres qui me tombe du ciel sur la gueule. Me voilà rassurée. Arrivée sur place, je suis dans une maison avec 7 autres humoristes. Premier choc, bien qu'ils aient tous des parcours de vie différents, aucun d'entre eux ne comprend la phrase « faire la vaisselle ».« Making the dishes ». Après une heure d'échange, durant laquelle nous apprenons chacun de nos coutumes, moi leur apprenant l'usage de l'éponge, tandis qu'ils m'expliquent la recette des spaghettis aux champignons, avec les champignons poussés dans la casserole, utilisés lors des derniers spaghettis.
Ah.
Ils appellent ça la pasta al funghi à l'infini. C'est du circuit court. Dégoûté, je fuis dans les ruelles d'Avignon pour commencer à flyer, à tracter. Pour les non-initiés, donc le tractage par un comédien, c'est comme du harcèlement de rue. Mais si tu sais pas aux avances du harceleur, il ne t'agresse pas sexuellement. Pire, il fait un happening avec sa troupe. Crois-moi, tu le vois chanter Mourir sur scène de Dalida à poil sur la rue de la République, tu regrettes presque qu'il t'ait pas juste mis une main au cul. Le harceleur le faisait à l'époque où il savait se tenir. Mais malgré le traumatisme des journées à tracter, des publics de 6 personnes, des humoristes à hygiène douteux, je garde un souvenir inoubliable de cet été avec eux. On a resté proches, comme si on avait fait le Vietnam ensemble. Me parlez pas de cette odeur-là de bon matin. Je fais le jeu intermittent. En plus, j'arrête l'huile de napalm.
Merci. Lisa Delmoitier, qui ne va pas retourner cet été, du 5 au 26 juillet à Avignon pour le festival. À propos de festival, Avignon, le film a reçu 3 prix au festival de l'Alpe d'Huez, le Grand Prix, le coup de cœur des Alpes, et également le prix du public de Canal+. C'est bien d'être auréolé comme ça de ces 3 prix, en plus dans un festival où l'humeur et l'humour ont l'importance. Il y a d'autres axes autour de cette comédie romantique, il y a évidemment la tension économique pour une troupe de réussir à monter sa pièce, à faire du monde, à être viré, à payer des tracts, à faire sa publicité. Il y a tout ce côté économique et puis il y a tout le côté vie sexuelle délurée. Ce qui se passe à Avignon reste à Avignon. On a l'impression que c'est ça, Avignon Spirit.
Oui, c'est la colo, c'est un peu la colo de vacances des comédiens et des comédiennes, on va se l'avouer, hein. Il y a des le personnage d'Elisa dit un truc très bien, on a l'impression de vivre 1000 vies en 3 semaines, ce qui est la vérité. Et
ça veut pas dire que tout le monde couche avec tout le monde.
Non, ça veut pas dire que tout le monde couche avec tout le monde.
C'est pas obligatoire.
Mais il y a des, non, c'est pas obligatoire. Mais il y a des rapprochements.
Tout le monde couche avec certains.
Non, mais c'est ça. Il y a un truc très mignon, on se côtoie, et puis, mine de rien, comme l'a dit Oldelaf, c'est plein de gens qu'on connaît, mais mine de rien, on se croise toujours en promo ou dans des théâtres et on n'a jamais l'occasion vraiment de parler. Donc,
c'est une sorte de huis clos, hein.
C'est un huis clos et c'est la tournée nationale se retrouve dans un même endroit, donc forcément, il y a des liens
aussi. C'est cassé, donc tu
t'es pas chez toi.
Ouais.
Et puis c'est ce système de Airbnb, de colocation, ouais, de logement, squat. Parce que la grosse galère aussi pour les actrices et les acteurs quand ils vont à Avignon, c'est trouver où dormir.
Ouais. C'est ça. Pas trop loin.
Parce qu'il y en a qui sont au camping.
Ouais.
Le pire truc, c'est de flirter avec quelqu'un qui lui dise je suis au camping, qui vient, parce qu'il faut se taper tout le pont, faut tout traverser.
Bah, faut choisir. Hein,
tu flirtes avec une villa, ouais.
Faut demander d'abord.
T'as une piscine.
Voilà, faut demander d'abord. Excellent conseil.
La clim.
Et puis la piscine. La pièce elle-même qui est montée. Elias Salem en est le producteur, metteur en scène, extrêmement drôle aussi dans sa dans l'électricité qu'il dégage.
Qu'est-ce qu'il est beau, ce Elias Salem aussi. Qu'on le dit ou pas?
Ah, bah on le dit là. Tu l'as dit là. Très clairement, tu l'as dit.
Nous, on l'a entendu en tout cas.
Voilà.
Elle l'a peut-être pas dit, mais on l'a entendu.
C'est un pur génie, Elias Salem.
Ouais, il est tellement drôle.
C'est un génie, vraiment.
L'amoureux d'Alison Wheeler dans le film, qui est actrice dans la pièce qu'il met en scène. Et qui craque, qui n'en peut plus parce qu'il est tiraillé entre gérer des actrices et des acteurs et devoir rendre des comptes et payer le théâtre, la pub, les cachets des artistes.
C'est un personnage qui est sous pression, qui est extraordinaire parce que c'est un personnage dans lequel on se reconnaît forcément si on a créé quelque chose ou on a porté un projet et qui porte sa troupe et qui obligeait lui d'être un petit peu dans le mensonge tout le temps pour gérer, garder le moral, garder les troupes un peu vaillantes. Et il est bouleversant, Elias, là-dedans, parce que c'est un acteur déjà qui est très brut et qui est très authentique, qui joue les choses très. Vraiment,
d'instinct.
Puis vous observerez quand vous verrez le film, il joue des détails vraiment, il joue beaucoup de choses dans très peu de regards, enfin, il est très fort.
Et il passe par tous les états, le pauvre, j'ai envie de dire.
Ouais,
par tous les états. C'est-à-dire que. Il est à la fois le taulier, le patron, mais aussi la victime de la situation dans laquelle il se retrouve, pris par ses propres mensonges également, voire par des trahisons de personnes qui lui disent « tu peux compter sur moi », mais ça n'arrive pas.
Ouais.
Tout ça avec un propriétaire de théâtre, je ne sais pas si c'est du vécu pour Johan Dionnet, mais qui est un beau salaud qui ne veut qu'une chose, lui, c'est rentabiliser son théâtre et si il n'est pas prêt spécialement à aider, sauf menace.
Oui. Ah bah le nouveau propriétaire du palace est au prud'homme là en ce moment même. Donc c'est pas une totale fiction. Enfin c'est il y a vraiment des gens qui sont un peu oui, il y a des filous.
Okay. J'étais pas au courant.
Ah oui, non on peut vous le dire parce que en plus il était mignon.
Parce qu'il est en prison.
Le directeur du palace, c'est une anecdote que vous avez raconté Johan Dionnet, il l'a reçu et Johan a dit je veux vraiment jouer dans cette salle, ça compte beaucoup pour moi et il dit ah non mais moi j'ai repris la programmation du palace, les comédies pouette-pouette, c'est terminé hein. Moi, je vois que vous avez lu le scénario. Eh ben, on est très contents de venir chez nous. Donc, c'était génial. On est arrivé vraiment dans le contexte qu'il fallait et ce monsieur a très mal tenu sa salle. Donc,
Et Rudi Milstein, récompensé d'ailleurs au Molière.
Il est extraordinaire. Ouais. Il a un talent.
Il est dingue. Alors, lui, c'est le régisseur qui est engagé mais qui n'a pas son permis.
Oui.
Et quand il a dit, mais ça te pose pas de problème de descendre avec la camionnette, ça me pose pas de problème. Bah, donc, tu n'as pas le permis. Bah, non. Moi, je voulais juste être assis dans la camionnette. J'ai pas dit que j'allais conduire. Et ça part de là. Et le gars, il est tellement. C'est un peu c'est le cousin d'ailleurs.
C'est le
neveu.
Le neveu caché de Elias Salem.
Tonton.
Ouais, c'est le tonton. Il faut pas l'appeler tonton devant les gens. Mais ça, c'est un
rôle. Qui découvre que lui n'est pas payé alors que les autres ont même pas 60 euros.
Non, mais c'est un régisseur nul.
Quoi,
c'est un régisseur nul et qui est vraiment incroyable. Rudy, il a un clown absolument incroyable. Ouais. Et c'est des rôles qui ont été rajoutés. C'est là aussi où je dois dire bravo à Johan Dionnet.
Oui, parce que c'était un court métrage. C'est ce que vous voulez dire, j'imagine.
C'était Je joue Rodrigue. Il y avait Johan Dionnet qui jouait le rôle de Stéphane et il était avec Elisa. Il y avait Constance Carlet qui était déjà dedans.
Amaury.
Et il a rajouté les rôles d'Alison Wheeler, de Lies Salem et de Patoche et de Rudy.
Et ça fonctionne.
Et ça fonctionne très bien. Et c'est là où on voit que Yoann Dionnet est un futur très grand metteur en scène. C'est que même quand un comédien ou une comédienne a une réplique, il la met au, il ou il la met au bon endroit et il est très fort pour ça.
C'est au cinéma ce 18 juin, Avignon. C'est une réussite, comédie romantique. Et puis je trouve que vous faites un très joli couple.
Ouais, ça
à l'écran, ça fonctionne. Non, ah, mais vraiment, on a vraiment envie que vous soyez amoureux.
Ouais. C'était très agréable de jouer avec Elisa. Elle était une partenaire. Parce que c'était pas facile pour elle de refaire la version longue du cours avec un autre Stéphane.
Elle était un peu déçue.
Je sais pas si elle était un peu déçue, mais elle a été d'un grand soutien.
Non, c'était formidable de jouer avec les deux, je tiens à dire quand même. Ouais. C'était la même partition, mais complètement autre chose finalement. Parce que...
Non, mais ça joue bien.
Et ce qui est aussi ce que je précise, c'est que Baptiste, on le voit pas en fait dans ce
genre de registre. C'est pour ça que c'est un bon film.
Non, on le découvre dans son intime, je trouve, et il y a quelque chose. Si vous aimez beaucoup Baptiste aussi en tant qu'acteur, et ben là vous allez le découvrir très autrement, et je trouve que c'est très intéressant.
Alors oui, on le découvre autrement et on comprend aussi parce que quand il joue ses spectacles qui sont essentiellement basés sur sa véritable histoire et sur ses propres phobies ou ses fêlures, en tout cas on peut retrouver cette fragilité, cette gêne, cet embarras. Après il y a des scènes où en effet il se révèle et on le voit jouer d'autres cordes à son arc, mais tous les deux vous jouez extrêmement bien. D'abord, sincèrement, tout le monde joue bien et j'ai le sentiment que chaque actrice ou acteur monte le niveau de l'autre. Il y a Emmanuel aussi, Bougerolles, ouais, qui est voilà, que l'on aperçoit. Il y a plein d'actrices, ouais, d'actrices et d'acteurs. Ouais. Et celle qui joue aussi dans Chimène, qui joue dans Le Cid.
Charlotte Mazneff.
Bah oui,
elle est extraordinaire.
Quand même, sublime actrice. Et qui fait une vanne devant le théâtre en autodérision qui est extrêmement drôle.
Oui. Et c'est hyper agréable, moi je trouve, de voir Baptiste jouer justement Le Cid parce que tu te transformes, le regard se transforme. Et pour les gens qui te connaissent sur scène et dans les films beaucoup de comédies, c'est génial de te voir endosser ce rôle. C'est un peu comme là, comme sa mère, tu vois, qui a pris
Cyrano.
Cyrano. Ouais. Et je trouve ça génial.
Surtout que la scène est très chorégraphiée, elle est très belle parce qu'en fait elle est en mouvement, on n'est pas sur une sorte. Il y a une sorte de poursuite amoureuse, enfin, c'est très très joli dans le film, la scène.
C'est La La Land. C'est un La La Land. Ouais.
C'est sûr que ceux qui vont voir Les Îles de Paris en slip, en polochon, ils vont voir un petit grand écart. Ouais.
Avignon au cinéma et à la radio, c'est Laura Domange.
Écoutez, c'est la déprime. Bravo. C'est la déprime en ce moment, je trouve. Venez, on dit que le monde, ça serait tellement plus sympa si c'était une comédie musicale, franchement. Ouais. Venez, on dit adieu France Info, fini le 7-9, adios CNews, place au C-Groove. Quand il n'y a plus les mots, il reste les mélodies, comme dirait Serge Trigou, célèbre philosophe qui n'existe pas. Alors, après Rire et Chanson, je lance un nouveau concept, un JT musical nommé Le pire en chanson. Ukraine, cette semaine, le Kremlin est formel. Figurez-vous que Vladimir Poutine continue à faire la guerre. Tout le monde flippe de l'arme nucléaire. Vladimir Poutine, cessez le feu, on lui dit pas, car on veut pas finir en tarmac. États-Unis, Maison Blanche, la romance entre les deux hommes les plus puissants d'Amérique et même du monde traverse quelques perturbations. Le compte Twitter du milliardaire balance que le président est pervers, que c'est pour ça que l'affaire Weinstein ne fait plus la une des magazines. Quand on critique Elon,
love.
Quand Trump l'abandonne,
don.
Quand on menace Elon,
love.
De vendre moins de Tesla, ça ne passe pas. On se retrouve après une courte page de publicité. Fast and Fashion, le nouveau blockbuster avec l'acteur Vin Diesel. Dans ce nouvel opus, il va devoir affronter Shein, un méchant de très mauvaise qualité, mais vraiment pas cher. 1600 tours minute et saurage, même pas délicat. Fast and Fashion, demain chez vous, sans frais de livraison. Vous êtes sûr? Vous êtes sur Pire en chanson, il est 11h27. Écologie. Urgence Océan, une émission spéciale diffusée la semaine dernière en direct du port de Nice, mettait en lumière les défis écologiques que doit relever la France. Emmanuel Macron était l'invité de... De qui?
Hugo Clément.
Non. Lamé, salamé, oléa, salamé, salamé, salamé.
Question délicate sur le glyphosate. Macron est déjà en sueur. Mais Léa poursuit, elle le contredit. Il ne prend pas peur, car en fait, il s'en branle de l'écologie.
Salamé, salamé, olé.
Juin 2025, la dissolution du mouvement antifasciste de la Jeune Garde a provoqué la colère des jeunes et actuellement, tous se demandent...
Oh oui,
Retailleau, qu'est-ce que t'as contre les gauchos? Retailleau, pourquoi tu racontes tant de mythos? Et oui, la France, à l'image du monde, se radicalise. Les élections de 2027 approchent. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, la décision de justice est formelle. On ne pourra pas voter Le Pen. Oh, Le Pen, car elle a volé de la moula. Alors elle se représentera pas. Le Pen. Le Pen, mais s'endormir il ne faut pas, car il reste toujours Bardella. On a peur de ces gens-là. Merci, merci à tous. C'était Le Pire en Chanson. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même pomme, pour un nouveau tour d'actualité en musique. Et d'ici là, n'oubliez pas, c'est pas parce que le monde part en sucette qu'on peut pas pousser la chansonnette.
Joli. Laura de Monge.
Bravo, Laura. Merci.
J'en supplie, fais le journal.
Ah voilà, avec plaisir. Tiens, France 2, viens, viens.
T'as bien fait d'arrêter de tracter pour les autres.
Merci,
bravo, bravo.
Avignon, le film sort le 18 juin. Johan Dionnet le réalise.
C'est pas demain, ça?
Si, c'est pas loin.
C'est l'appel du général, c'est demain.
Un dodo et on y est. Johan Dionnet donc joue dans le film, l'écrit et le réalise brillamment aux côtés de Rudy Michstein, Constance Carlet, Lies Salem, Alison Wheeler et nos deux invités, Elisa Erka et Baptiste Le Capin. On va parler d'Avignon évidemment dans quelques instants avec notre invité Jacques Nerson qui est journaliste théâtre à Nerson,
ouais.
Moi j'ai voulu le faire à l'américaine.
Ouais.
Okay. Jack Nerson. Jacques Nerson, ouais. Qui est journaliste de théâtre à l'Obs et à l'Avant-Scène. Mais d'abord, la musique dans vos vies. On va commencer en 2013, où Elisa, vous écoutiez...
La fête.
Ambiance.
Yes.
Badaboum.
Qu'est-ce qu'elle évoque?
Je suis comme ça, moi.
Qu'est-ce qu'elle évoque cette musique pour vous?
Eh ben, l'auberge espagnole, Clapiche, comédie romantique, parce que vous avez mis 2013, début du cinéma d'Elisa. Alors moi j'ai mis début du cinéma, c'est mes débuts d'amour de cinéma, tout ce que j'aimais, donc j'ai pensé à ça, voilà.
En spectatrice.
Début du cinéma en spectatrice.
Oui. Et en Diane Curis.
Et en Diane Curis, ouais.
En Diane Curis.
Non, mais mes premiers pas, non, mes premiers pas
pour
dans
l'auberge,
le cinéma.
Pour l'auberge espagnole.
Ah oui, l'auberge espagnole, ouais. J'étais pas dedans.
Non. Voilà, c'est ça, non, c'est que je voulais préciser. Oui, avec ce titre de Radiohead.
Et Diane Curis,
devant
donc,
la caméra.
Absolument, pour un rôle dans son film, pour une femme.
Voilà.
C'était quoi votre partition dans ce film-là?
Eh ben, je jouais une fille qui s'appelait Bella, donc grosse pression. Et je jouais la meuf de Clément Ciboni, ouais. Dans un film avec Benoît Magimel, Mélanie Thierry et Duvauchel, qui était super. Et pour l'anecdote, Diane Curis n'a pas kiffé mes pieds. On a fait une scène un peu dénudée avec Clément Ciboni, où je me réveille le matin et j'entends « Mais putain, mes copains! Mais qu'est-ce que c'est que ces pieds ?» Et en fait, je capte que mes pieds...
Ne lui plaisent pas.
Mais quel enfer. C'est le pied qui ne plaise pas ou c'est quoi? Il y a un problème avec les...
Franchement, j'ai un peu peur de mes yaps, mais c'est...
J'ai les pieds... Elle a très beaux pieds.
Merci.
Vous avez quand même 13 orteils, c'est quand même...
Voilà. C'est trop à chaque pied.
Du coup, c'est une anecdote pour moi qui est forte parce que c'est mon premier plan un peu...
Donc elle a coupé les pieds?
Et ben du coup elle voulait une doublure de pied. On m'a collé les doigts de pied d'abord. Et puis ensuite, j'ai eu une doubleur de pieds.
On vous a collé les doigts de pieds.
Oui, avec un petit, scotch. Un petit truc de.
Qu'est-ce qu'ils ont
de
Est-ce qu'on peut les voir
bah, ils sont pas. J'ai envie de les montrer, quoi.
Ah, moi, j'ai qu'une envie, c'est voir les pieds.
Mais faites-en un business.
Allez, un seul pied.
€10, quoi. Il y a WikiFit.
Bah oui, bien sûr.
Je suis pas dessus.
Un OnlyFans ou un truc comme ça, juste avec vos pieds.
Non, je crois que c'est Lily Allen qui gagne plus d'argent en vendant des photos de ses pieds qu'avec les droits d'auteur de sa musique.
C'est chaud, hein. C'est vraiment.
Okay, non, puis on a envie d'embrasser Diane Curry, surtout, qui a pédagogie.
C'était formidable de tourner avec elle, mais il y avait ce truc-là m'a marqué parce qu'en effet, c'était
la. Oui, mais si vous en parlez encore aujourd'hui, c'est la première fois que vous étiez un peu nu devant une caméra et la première. Et la première réflexion est extrêmement méchante sur quelque chose de physique auquel vous ne pouvez rien. C'est même pas refais la scène plus comme ci, plus comme ça.
Elle serre les orteils un peu.
Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?
Bah écoutez, pas grand
chirurgie chose. Esthétique, non.
Clément Simonis, c'est le mec de Terre d'Hermès.
Génial.
J'aimais bien ce mec-là. Il jouait dans Promenons-nous dans les bois, il est très beau ce garçon.
Ouais,
et lui, on lui a rien dit sur ses pieds.
Ce film.
Je m'en souviens pas, je me souviens juste de ça.
Ouais, ça l'avait.
Il paraît qu'il a les pieds dégueulasses.
Non, mais parce que.
Aussi, t'as dit.
On se rend pas compte de la gêne que l'on peut vivre quand on est actrice ou acteur.
Ils sont sur un plateau, c'est pas.
Mais surtout qu'elle s'appelait Bella, quoi.
Ah oui, c'est vrai, j'avais vous appelé ça aussi.
La pression.
La même année 2013, Baptiste Capin, vous écoutiez. Elle évoque quoi cette musique?
C'est une musique qui parle des kilomètres parcourus et c'était le début de la tournée du trio avec Jérémy et Arnaud. Et on était loin de s'imaginer qu'on allait faire autant de kilomètres tous les trois dans des minibus et dans des trains.
C'est dingue, ça a commencé si tôt. Moi, je savais pas que vous étiez.
Il y a 12
ans,
c'était la première tournée du trio. Ouais. On avait fait une première tournée et après, 12 ans après, on a refait la tournée du trio dernièrement. On a fait 82 dates en 5 mois.
Et combien de gens?
310 000.
310 000.
C'est Dijon, la ville de Dijon. C'est pour garder les pieds sur terre.
Non, mais c'est surtout un record,
non? Non, c'était incroyable. On a fait le spectacle a été retransmis au cinéma et on a fait 130 000 entrées en une séance. Ce que je n'ai pas fait avec plein de mes films. Donc c'était très chouette.
Et 12 ans plus tard, la tournée, ça veut dire que vous êtes plus vieux, un peu plus fatigué, plus vous connaissez davantage.
Oui. Et c'est. La tournée, c'est un moment incroyable, surtout avec des copains aussi géniaux que Jérémy et Arnaud. Mais à force, je me rends compte qu'avec le temps, on aime bien faire caca à la maison quand même.
D'accord.
Pardon d'avoir dit ça comme ça, mais
c'est on va garder cette phrase.
D'être loin de chez soi, dormir dans son lit.
Certains n'arrivent pas à faire la chose en dehors de chez eux.
Et on embrasse Arnaud de sa mère. Voilà.
Jacques Nerson nous a rejoint. Pardon, Jacques, de vous avoir américanisé. Je suis désolé. Journaliste et théâtre à l'Obs et à l'avant-scène. Le festival d'Avignon donc ouvre ses portes du 5 juillet. Pour les fermer le 26 juillet. Que représente pour vous le Festival d'Avignon ?
Ben, ça a beaucoup changé parce que mon premier festival date de 1971.
Oh, wow.
J'en ai pas raté beaucoup, quelques-uns quand même, mais le festival a beaucoup changé depuis ce moment-là. Eh bien, quand on y était, c'était encore une volonté de théâtre populaire. J'ai connu le festival du temps de Villars, mais j'ai connu le festival du temps de Paul Piot, qui était son successeur et qui était un instituteur de Corrèze, qui était. Un homme très rigoureux et en même temps qui essayait d'ouvrir à toutes sortes de spectacles. Et puis petit à petit, le festival a perdu ce côté militant et c'est devenu un marché du spectacle très large.
Pardon, quand vous dites militant, c'était des acteurs qui n'avaient pas la possibilité de se produire ou de faire des spectacles à Paris dans des salles parisiennes, donc revendiquaient une liberté de création qu'ils ne pouvaient pas vivre à Paris.
Non, c'est-à-dire le festival de Villars, c'est un festival qui part de l'idée de faire du théâtre populaire, d'ouvrir le théâtre.
Oui, mais tout le monde n'est pas d'accord avec la définition de populaire.
En effet. Mais en tout cas, il y avait cette volonté. Et c'était très important. Alors, à partir de, je crois, 1967, s'est créé un anti-festival. Au départ, le festival OFF était un festival de contestation. Ouais. Et Villars, d'ailleurs, était plutôt favorable à cette arrivée de ces jeunes qui étaient turbulents. Et puis, cet esprit de contestation a disparu. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et
mais je voudrais que l'on comprenne bien ce que vous définissez par populaire, engagé, contestation.
On est engagé politiquement.
On est dans de la politique. Ouais.
Politique, enfin, en tout cas, une volonté civique d'ouvrir le théâtre à tout le monde. Et cette volonté a disparu, le festival est devenu, le festival IN est devenu de plus en plus snob, c'est l'entre-soi, et moi, il me plaît de moins en moins.
Et c'est dans les territoires, c'est-à-dire c'était aussi dire tout d'un coup, le théâtre, c'est pas qu'à Paris, c'est Avignon, c'est une façon aussi avec plein d'auteurs un peu méditerranéens, j'ai envie de dire, ou en tout cas dans une culture plus du sud de la France, qui voulait aussi montrer que le théâtre pouvait exister ailleurs, en fait, avec cet engagement-là, un engagement fort.
C'est sûr.
Mais si vous voulez, moi j'étais très marqué. Vous plaît moins. Pourquoi le IN vous plaît moins?
Par exemple, il y a une scène du film que j'ai beaucoup aimé.
Dans Avignon.
Merci, monsieur.
Et qui m'a beaucoup amusé. Mais il y a une scène du film qui se déroule au bar du IN. Alors, cette idée me révolte complètement, c'est-à-dire de créer un endroit où n'ont accès que les acteurs et les techniciens du IN.
Sur invitation,
sur un bracelet ou autre. Ouais. Cette idée me scandalise depuis le début, et je l'ai dit autant que je pouvais, c'est le contraire de l'esprit du festival.
C'est une forme de racisme,
Racisme, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, d'ostracisme.
De mépris.
De mépris. Et effectivement, je trouve ça insupportable. Une des raisons du succès du Festival d'Avignon au début, c'est que les gens, le tout venant, pouvaient côtoyer Gérard Philippe, Jeanne Moreau, etc. Ils les voyaient dans les restaurants, etc. Et il y avait aussi des lieux de débat. Il y avait par exemple ce qu'on appelait les rencontres du verger, où il y avait des débats après les spectacles, et les spectateurs donnaient leur avis, disaient « mais ça j'ai pas compris, ça j'ai pas aimé », etc. Surtout, ça n'a plus lieu. C'est terminé.
Pourtant, le clivage théâtre privé, théâtre public a l'air d'être moins visible dans les Molières, dans les cérémonies ou de ce que l'on voit à Paris. C'est une erreur.
C'est une erreur profonde.
Il y a toujours une tension, il y a toujours un mépris
de part et d'autre.
Vous avez vu le film Le goût des autres.
Oui.
C'est ça. C'est ce qu'on voit.
Et c'était la référence de Johan Dionnet pour le film.
C'est sa référence absolue.
Le goût des autres.
C'est vraiment une illustration de ça. Alors, ce qui est amusant, c'est que le mépris là joue entre artistes du off et non pas entre off et in, et pourtant le mépris elle-même.
C'est une reproduction du mépris, en fait. C'est-à-dire qu'au sein même du off, il y a aussi des catégories. Quoi.
Absolument.
C'est fou, hein.
Mais ça, c'est dû au répertoire. Donc, qui joue du classique, qui joue du boulevard? Ou c'est plus compliqué que ça?
Oui, c'est-à-dire, quand on dit boulevard, il y a une catégorie, ça serait plus proche du café-théâtre. Ce qu'on voit. Ouais. Et là, le mépris, effectivement, est très grand. Très grand.
Il faut s'auto-financer quand on est dans le off, ça coûte cher, il faut payer son logement, sa bouffe, louer le théâtre pour se présenter aux professionnels en espérant que tel ou tel professionnel va venir et vous engager pour la saison suivante.
Exactement. Si vous voulez, la plupart du temps, on y perd. Il faut dire que c'est très court. Trois semaines, ça veut dire une semaine où vous essayez de faire venir les gens, essayez de faire parler. Après, il y a 15 jours d'exploitation, c'est très court.
Je vous interromps, mais la deadline pour plein de gens, c'est le 14 juillet. Ouais. Il faut tenir jusqu'au 14 juillet, et après le 14 juillet, c'est le boom du festival. Si vous ne tenez pas jusque-là...
Mais parce qu'il peut y avoir des scènes qui sont déprogrammées en cours dans les festivals.
Je vous fais une rapide anecdote. Je jouais mon premier Avignon à 11h. On me disait qu'il faut jouer une heure, parce qu'à midi, tu as deux frères qui faisaient un spectacle qui était produit par leur maman. Et au bout de la cinquième représentation, on m'a dit c'est bon, tu peux faire plus long. Ils ont été déprogrammés.
C'est violent.
Ils étaient à moins 10 000 euros, je crois, de frais. Et la mère a dit je préfère arrêter là, sinon on va s'endetter.
Évidemment. Clin d'œil que l'on retrouve d'ailleurs dans Avignon aussi, avec l'argent que la mère pourrait prêter pour que le festival se.
C'est très dur. Des gens hypothèquent leur maison pour y aller, c'est très dur.
Est-ce qu'il y a des noms à suivre cette année? Vous y serez, j'imagine, du 5 au 26?
Sûrement pas.
J'y
suis allé grâce à vous en regardant le film, mais je n'y retournerai pas.
Vous êtes fâché avec le festival,
parce qu'il y a une belle programmation,
Jacques. Pour le off.
Et puis c'est une programmation aussi pour le IN, si je peux défendre le IN, même si je ne suis pas actionnaire du IN. Je trouve que dans le choix aussi des artistes qui sont programmés, il y a des messages qui passent, dans le soutien à plein de sujets d'actualité, à une façon aussi d'envisager le monde différemment. Donc
je serais pas aussi raide que vous. Alors, je n'ai pas connu le festival dans les années 70, bien entendu. Mais en tout cas, je crois qu'on peut y trouver ce qu'on va y chercher aussi au Festival d'Avignon et faire sa programmation en tant que festivalière entre des pièces du in, du off, alternées et se faire sa composition.
Soyez ouvert, Jacques, soyez ouvert.
En tout cas, voilà, Jacques,
s'il te plaît.
Je suis pas assez ouvert, mais mon bonheur, je l'ai trouvé dans le off ces dernières années, plus du tout dans le in. Et le off, au fond, je peux le voir à Paris. Paris, c'est
pas
un
tout,
grand festival off permanent.
Ouais, mais pas tout, c'est pas vrai.
Pas tout, mais il n'y a jamais tout. Mais il y a
c'est
vraiment beaucoup à voir à Paris.
Oui, mais on les
donc,
voit
si vous
au Châtelet,
je suis pas frustré,
on les voit pas.
Je ne suis pas frustré de théâtre. Je comprends très bien que des gens qui, par exemple, habitent dans des petites villes, dans des villages de province, aient envie d'une fringale de théâtre que je n'ai pas, parce que moi, j'y vais à Paris assez souvent. Donc, je passerai mon mois de juillet ailleurs.
Allez Jacques, 10 jours, très bien. Jours.
En tout cas, les opinions se sont exprimées. Merci Jacques Nerson d'être venu à ce micro. Journaliste théâtre à l'Obs, donc à l'avant-scène théâtre.
Plus maintenant, hein, ça c'est fini.
Ah pardon.
Je suis retraité.
Tranquille. Ah. Eh ben, merci d'être venu. Merci. Tanguy Pastureau, avant la retraite, de quoi veux-tu nous parler ?
Merci, c'est gentil. Je veux parler d'un milliardaire anglais qui est mort après avoir avalé une abeille, ce qui est quand même une mort à la
quelle enfer.
Elisa Erka et Baptiste Caplin sont nos invités jusqu'à midi et demi. La bande originale avec Leïla Kadouboudadi, avec Lisa Delmoitié, Mélodie Fontaine, Tanguy Pastureau, Laura Domange, Old Laf, Daniel Morin.
Coucou Mélodie.
Coucou Daniel.
Et nos invités Elisa Erka et Baptiste Caplin. Comédie romantique avec plusieurs intrigues, entre guillemets, comment une troupe de comédiens réussit à s'en sortir, mais que ce soit d'ailleurs pour se loger, pour produire le spectacle, que pour manger, ou même fréquenter les lieux où il faut absolument être vu et voir d'autres personnes, éventuellement pour son métier, pour signer soit des contrats ou être débauché, tracté, faire coller des affiches.
Et préparer l'après aussi.
Voilà, et puis et des histoires d'amour, promiscuité, de se retrouver enfermé dans un studio ou mieux dans une villa, ce qui n'est pas toujours le cas non plus pour les acteurs et les actrices, mais avec des fréquentations et des rapprochements. Ça, c'est une intrigue. L'autre intrigue, ce sont ces deux mondes qui, a priori, se méprisent, en tout cas quand ils sont en groupe, quand ils sont en clan les uns avec les autres. Et évidemment, dès qu'on prend deux individus, qu'on les sort tous les deux de groupes qui s'opposent, là, ils pourraient peut-être s'entendre, voire tomber amoureux les uns des autres, que ce soit le in et le off, premier mépris, on l'a entendu tout à l'heure, ou que ce soit le théâtre classique ou le théâtre de boulevard, voire café-théâtre, comme on l'a entendu, ceux qui sont acteurs au café-théâtre ou ceux qui sont acteurs pour jouer du Corneille n'ont peut-être pas le même jugement. Il y a cette phrase qui est dite aussi à un moment donné, tu es sur scène, il y a des fauteuils rouges, il y a des gens assis dans le fauteuil,
c'est du théâtre.
Voilà, point barre. Tu voulais dire, pardon Mélodie ?
Non, je disais on parle de tract, mais il y a aussi parader, et la scène de la parade, moi ça me terrorise de parader, je trouve ça atroce.
On va préciser ce que ça veut dire, c'est-à-dire soit reproduire une scène du spectacle comme pour un extrait dans la rue à une terrasse de café, généralement pour qu'il y ait du monde, soit inventer, improviser un sketch.
Ouais, c'est ça. Et dans la rue, c'est terrible parce que souvent, tu le fais en terrasse de café, ils sont en train de boire un verre et tu les vois, il y en a plein qui font la tronche quand t'arrives et ils font « Oh !» Et t'es là « Mais je n'ai déjà pas de dignité !»
Et il y en a qui sont super contents aussi parce que quand ils n'ont pas beaucoup de spectacles à voir dans la journée, ça crée une animation dans la rue, il faut penser.
Oui, évidemment, mais c'est très dur à faire quand on est comédien.
Mais c'est terrible, mais c'est aussi pour ça que tu viens à Avignon, c'est parce que tu sais que tu vas voir plein de spectacles, tu vas voir quelqu'un en costume te déclamer des verres et ensuite tu vas voir un truc.
Puis ça fait partie d'Avignon.
Ça fait partie du charme.
Et quand on sort d'Avignon, on est dans quel état ?
Quand on
sort,
quand c'est terminé d'Avignon,
on est fatigué.
On est lessivé, lessivé. Mais Johan Jonnet disait un truc très juste, il disait même avant Avignon, quand les gens disent souvent « Ah, fais chier, cette année, je fais Avignon. » Et quand ils le font pas, ils font « Ah, fais chier, j'aurais bien fait Avignon quand même. » Donc c'est un truc assez fou parce que c'est tellement dense, c'est tellement intense qu'on en sort lessivé, mais généralement, on a appris. Et je trouve que c'est important de le faire au moins une fois en tant que comédien ou comédienne parce qu'il y a l'humilité à chaque coin de rue. C'est pas parce que vous remplissez qu'il faut pas... vous voyez forcément d'autres gens plus galérer que vous et ça vous remet les pieds sur terre tous les soirs.
Non, c'est beau, ça.
C'est vrai. C'est très beau.
Elisa Erka, chanteuse, elle est dans la bande originale avec ce titre qui est pas tout récent. Il a combien, 3 ans?
Non, il a 10 ans.
Mais wow. Non.
Il a 10 ans. En fait, ça c'est même un peu plus. C'est un de mes premiers textes écrits. Et
la mer à boire.
Oui, et Johan m'a fait l'immense honneur de le mettre dans son cours et dans son film. Il a eu un coup de cœur pour cette chanson et moi je voulais le remettre au goût du jour. Et j'ai du coup décidé de réenregistrer le morceau avec un artiste que j'adore qui s'appelle Voyou et qui a donc arrangé cette version. Et aussi Johan a réalisé le clip de cette version qui est dispo partout. Et voilà, j'en suis très heureuse.
Il serait pas un peu amoureux,
Johan? Amoureux de ma chanson déjà, c'est bien. Non, on est très amis, tout va bien.
Mais il craque à juste titre, en tout cas. Et puis, il vous sublime tous les deux, parce que ce couple-là est absolument charmant, attendrissant. Ils ont chacun leurs défauts qui nous font rire, mais quand ils craquent l'un pour l'autre, on a envie d'être leurs copains, de les aider. Évidemment que tout arrive et tout finisse bien. C'est une comédie romantique aussi, je l'ai précisé. Comme dans toutes les comédies romantiques, ça commence mal, tout les oppose, ça part sur de mauvaise base, c'est-à-dire mensonges, quiproquos, peut-être même trahison.
Le couple, quoi.
Ouais. Peut-être finir amoureux.
Il y a quand même un meurtre hein, dans le film. Non, je plaisante, c'est juste pour donner un petit peu de... Tu vois, il n'y a pas que de l'amour.
En deux secondes, j'ai dit waouh, j'ai raté un truc.
J'avais dit que c'est la grande vraie de rue qu'on regardait. On a encore loupé.
Et puis, il y a surtout... Dans le film.
Ah mais bien sûr, toujours. Ça c'est un signe de qualité.
Ah ouais.
Ça c'est pour moi. Je pense que Johan l'a fait pour moi, sans me connaître. Mais
il m'a appelé tout à l'heure.
Il l'a fait pour toi.
Je le vois.
En se déshabillant.
Mais ouais. Oui, et c'est très beau cette scène. Je trouve très beau ce garçon.
Bon, ce qu'il faut savoir pour la petite anecdote, c'est que Alison ne savait pas sur quoi Johan allait danser. Donc la réaction d'Alison Wheeler qui entend Camaro, c'est la vraie réaction.
Ah ouais.
Et il y a cette fameuse sentinelle. C'est-à-dire cette lumière.
La servante.
Alors moi j'avais sentinelle, mais
au théâtre je crois qu'on dit servante.
La servante. Ouais, c'est ça.
On va vérifier, mais je pense que les deux se disent.
Sans doute.
Alors il y a le
in et off. Il faut dire oui.
Alors
c'est sentinelle.
Je crois que c'est servante dans le off et c'est sentinelle dans le in.
Là je retrouve Nagui.
Mais cette en tout cas cette jolie idée de dire il y a toujours une lumière qui reste et qui persiste au théâtre, c'est jamais totalement éteint, c'est jamais totalement noir. Et ça donne cette chorégraphie mise en scène et filmé par Johan et qui réalise également ce film, Johan Dionnet. Voici Tanguy, pas sûr.
Ah oui.
Hier, je suis allé sur le site madamefigaro.fr pour me mettre dans la peau des dames un peu bourgeoises à collier de perles parce que je prépare mon mois de juillet au Touquet. Quand je suis tombé sur un article intitulé « À 50 ans, les hommes séduisent plus qu'à 30 » parce qu'on a tout à cet âge-là. Confiance en soi, maturité... argent. Or, vous savez comment sont les femmes. Elles aiment le cash, les gros sexes et les bad boys. Voilà, attention, j'écoute pas mal de rap français, donc c'est possible que ça ait influencé un peu sur moi. La preuve, c'est que je suis aussi surpris quand quelqu'un roule en Renault Clio et que dans le coffre, il n'y a pas de calache, mais des sacs au champ. Et c'est vrai qu'hier, après l'émission, je suis reparti de la radio avec Daniel Morin, qui est l'archétype du quinquagénaire qu'on a envie de tripoter à l'arrière de la boutique de Vred. Il y a 55 ans, quand il est arrivé ici, il avait un physique de radio. Pas le média, la radio que tu fais à la clinique. On aurait dit un ligament croisé, quoi, pété. Ils avaient aménagé une geôle dans le sous-sol d'où ils faisaient ses chroniques. Les anciens disent qu'on entendait le bruit de ses hurlements remonter par les canalisations. Trois fois par jour, on lui jetait depuis un trou un poulet vivant ou un mec du RPR dont Charles Pasqua voulait se débarrasser et il le dévorait. Et en 2025, Daniel Morin, c'est ce DILF, Daddy We Would Like To, barbe grise, aisance financière. L'été, il fume le cigare à la boule avec Franck Loubrier, sa fée et sa paix en blanc du Nil. Il dégage un tel sex appeal que les femmes minotent devant lui. Tiens, hier, devant le hall. Dans le hall de Radio France, véridique. Hein. Une femme, une dame d'âge moyen, BCBG, parfumée au bois de Saint-Al, le croise et lui fait « Bonjour Daniel !» avec ce ton-là.
Ah,
c'est vrai ou c'est faux vieux brigand?
C'est gênant.
Hein. Mais lui, rien à foutre, il a grogné, il a continué à avancer vers la sortie. Trajet qu'il a accompli plus de 16 000 fois déjà. Et même sur les mecs, il fait cet effet. Il s'étonne d'être le seul à se faire palper par les vigiles à l'entrée et à la sortie du bâtiment. Parfois, ils sont quatre sur lui, leur boîte de gants en latex, il la vide en 4 jours. Pourquoi Daniel
Daniel connaît-il ce succès tardif et on peut le dire inespéré? Parce qu'il est dans sa cinquantaine. Passé 60, c'est fini. Hein. Quand je suis arrivé ici, il y a 8 ans, Nagui avait 55 piges, il était éblouissant. Ah, c'est pour ça que j'ai signé. Le même aujourd'hui, je réponds, vous rigolez, dans deux mois, on est sur France 3, j'y vais pas. Ce phénomène avec Manon, ce sont les quinquados. C'est-à-dire des mecs de 50 ans qui vivent une seconde jeunesse. Parce qu'on devient beau avec les paupières qui tombent. On voit plus les yeux, donc même s'ils sont marrons, on se dit qu'il doit avoir le regard plus bleu que le canard WC. Avec les plis sur le ventre, on voit plus le nombril. Ce qui fait que si, même si Amsterdam, en week-end, sont les week-ends où on fume de la weed, vous êtes fait mettre un piercing avec un diamant en toque, bah on le voit pas. Et si vous avez la chance d'avoir du gras au niveau du bas-ventre, ça cache votre pénis. Je veux dire, pour le sortir, il peut faire appel à une équipe de désincarcération qui d'habitude travaille sur la 15. Résultat, à 50 ans, bah, il n'y a plus que la moitié de votre corps qui est visible. Ça fait 50% de complexe en moins. Et je vous parle pas des quinquagénaires lépreux dans certains pays dont les bras sont tombés dans le salon et qui disent bon bah go résilier la carte basic fit que j'avais prise pour les biceps. Et tenez encore un quinqua sexy, Sunjay Kapoor, milliardaire anglais. On pense pas qu'il y en a hein, quand on voit les films de Ken Loach avec des ouvriers faméliques qui se partagent 30 dents à 14 dans la banlieue de Manchester. Mais il y en a, il y a des milliardaires anglais. Sunjay Kapoor est mort. Ouais, je sais, c'est violent de vous le dire comme ouais, ça, mais vous le connaissiez pas il y a 20 secondes, donc j'imagine que le choc est moindre. Il est mort à 53 ans, en plein match de polo. Il était supporter d'un club prestigieux, le même que le prince William. Hein, une fin de race à tête de cheval, ce qui fait qu'un match sur deux, il y a un type qui lui montait dessus. Les derniers mots de Sunjay Kapoor ont été, je cite la presse, « J'ai avalé quelque chose. Une fin de vie de pornostar. » Et, alors, le quelque chose, pas de chance, c'était une abeille. Or, il y a une règle pour vivre en bonne santé, et ça, est-ce qu'il en parle, Jimmy Mohamed? Non, c'est de ne jamais d'abeilles. Ah, même pour les adeptes du circuit court qui se disent on va aller choper le miel direct du producteur au consommateur, c'est non. Résultat, l'abeille, affolée, hein, elle était venue pour butiner des roses, elle se retrouve au fond de la glotte d'un anglais. Cet espace qui a 53 ans a vu déjà passer 200 000 frites. L'abeille pique Sunjay Kapoor qui meurt alors qu'il avait tout. Il avait tout. 53 ans, un sex appeal au top, un compte en banque qui est dégorgé de blé, il était marié à un top modèle et il a suffi d'une abeille pour que tout ça s'arrête. Quand je pense à France Inter, à tous les écolos là, qui sont là à dire qu'il faut les protéger, les abeilles, alors que ces ordures assassinent des milliardaires, encore des insectes issus de la gauche radicale. À mon avis, Philippe Poutou, il est pas loin d'installer des ruches dans son potager partagé à la con. Et c'est là que j'ai repensé à Daniel Morin. Je me suis dit, ça y est, enfin il est sexy. Il faut surtout pas qu'il se fasse trucider par un insecte. Donc je sais pas, foutez-lui une moustiquaire intégrale sur la gueule, quoi qu'il ait temps de profiter. Mais même Didier Bourdon, ça pourrait tuer Daniel, si Bourdon se met à raconter l'intrigue de ses films récents. Alors le club de polo en question a rendu hommage à Sunjay Kapoor. Ils ont écrit, je cite, « Il était amusant, gentil et généreux. C'était le Old Laugh britannique, mais en riche, quoi. Hein, il avait fait des choix de vie judicieux, lui. Il va venir sur France Inter et monter sur scène à 15 à devoir se partager le cachet, quoi. On est peu de choses, quand même, les amis. Non, je sais pas, un jour, on est là, milliardaire, à regarder du polo. Le polo, c'est une sorte de logo Ralph Lauren qui bouge et qui sent le crottin. Et d'un coup, on avale une abeille et on meurt, comme un con, à 53 ans, alors qu'on n'a jamais été aussi hot. C'est terrible. Donc, un seul réflexe face aux abeilles, le bégon. Crever, saler, gâcher les seules 10 années de notre vie où on est désirable. Old Laugh, amusant, gentil, généreux et attirant, puisque depuis le 10 mai, il a 50 ans. Alors profite, vieux.
Bon anniversaire, encore. Tanguy Pastureau.
Sur scène, le 14 novembre. Non, non, sans abeille, il sera à Carcassonne.
Très bien. Avignon, c'est le titre de ce film qui sort demain au cinéma. Comédie romantique réussie avec Élisa Erka, Baptiste Caplin, Alison Wheeler, Lies Salem, Constance Carlet, Rudy Milstein, Johan Dionnet, évidemment, qui en est le réalisateur et l'auteur, mais également Amaury de Crayoncourt ou Guillaume Cléris. Ça fonctionne, c'est drôle, c'est touchant, c'est divertissant. Et puis, ça vous apprendra Avignon si vous n'avez jamais eu la chance d'y aller. Et si vous connaissez Avignon, ça vous donnera et rappellera plein de bonnes choses. D'autres événements dans l'actu, Leïla.
Absolument. On cherche un film inter d'ailleurs, qui a été présenté au Festival de Cannes. Un film testament. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Non.
De quel film je parle ?
Non.
Au générique de noms de réalisateurs.
Qui sont...
Dardenne ?
Non. Nakash Toledano ?
Non.
Des réalisateurs qui sont morts.
Bah oui, il y a le réalisateur qui meurt, là, j'ai oublié son nom, malheureusement, et un autre
entre
réalisateur.
Entre les murs,
coup,
si je vous dis Entre les murs, qui a eu Palme d'Or, la Palme d'Or en 2008, le réalisateur d'Entre les murs, qui avait Laurent Canté. Absolument, bravo, Tanguy. Laurent Canté, en fait, a eu l'idée de ce film. Il est décédé.
il y a peu de temps. Et c'est Robin Campillo, que vous connaissez aussi pour 120 battements par minute ou pour Les Revenants, qui a réalisé ce film. Donc on voit apparaître au générique un film de Laurent Cantet réalisé par Robin Campillo, qui était aussi co-scénariste, Robin Campillo, de ce film, et qui a été aussi le co-scénariste et le monteur de beaucoup de films de Laurent Cantet. Ils se connaissaient très très bien. Donc voilà, ils signent finalement ensemble. La notion d'auteur, quelque part, elle explose, elle devient autre chose, puisque là, c'est un film signé ensemble. Cantet se savait malade. Il est mort d'un cancer à 63 ans, peu avant le tournage. Donc ce projet-là, finalement, a été mûri entre deux hommes. Et ça m'intéresse d'autant plus qu'il y a un papier hyper intéressant dans le Nouvel Obs, signé Amandine Schmitt, qui parle en fait du concept de réalisateur de substitution. Et qui raconte en fait comment dans le monde anglo-saxon, depuis très très longtemps, il faut, quand on réalise un film, indiquer le nom de quelqu'un d'autre qui peut prendre le relais en cas de décès. Alors c'est d'autant plus le cas quand on vous sait malade ou quand vous avez déjà eu une maladie, un cancer par exemple, que vous êtes certes en rémission mais que les assurances vont vouloir se protéger et vont vouloir que vous mentionniez sur le contrat, que vous stipuliez très clairement qui prendra le relais. C'est le cas aussi dans certains films. C'est le cas aussi pour certains postes très importants dans un film de réalisation, j'imagine, de premier assistant ou de choses comme ça. Il faut quand même toujours veiller à avoir...
Il faut que la personne mentionnée soit au courant et accepte aussi.
Bien sûr. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Et ça donne des histoires intéressantes. C'est notamment, et c'est ce qui est raconté dans le papier, c'est très joli, l'amitié qui a fini par exister entre deux hommes, Alain René et Bruno Podalydès. Alain René, en 2002, prend son téléphone, appelle Bruno Podalydès et à la demande des assurances, il va lui demander d'être son numéro 2. C'est le stand-by directeur, comme disent les anglo-saxons. Il réalisait Pas sur la bouche, alors finalement, il n'a pas eu besoin de Bruno Podalydès puisqu'il a pu aller jusqu'au bout de son tournage, mais il lui disait en riant, attention, on ne sait jamais, un hélicoptère peut venir te chercher, on va pouvoir te récupérer. L'amitié entre ces deux hommes a été telle que, toujours Amandine Schmitt raconte dans ce papier hyper émouvant, que le jour des obsèques d'Alain René, c'est Bruno Podalydès qui a sélectionné les images qui étaient diffusées lors de son enterrement. C'est dire que finalement, ce lien-là qui peut exister entre des artistes, c'est bien plus autre chose que simplement je te remplace parce que tu n'es plus là. C'est aussi comment on peut tisser des liens. Et donc, dans le papier, il y a plein de noms de réalisateurs associés souvent à des gens qui sont des co-scénaristes, donc qui connaissent bien, qui font une sorte de petit duo comme ça entre eux. Récemment dans l'actualité, on avait parlé du film de Sophie Filière. C'est son fils et sa fille qui avaient assuré ensuite le montage de ce film, qui avait donc assuré ce film testament d'une certaine façon. Tout ça pour vous demander à tous les deux, dans l'absolu, dans la vie, c'est qui votre numéro 2 la vie? Si vous deviez choisir quelqu'un avec le lien que je viens de vous raconter, qui a été tissé entre ces deux hommes, Alain René et Bruno Podalydès, vous, c'est qui votre prolongement?
Il faudrait quelqu'un qui puisse incarner, remplacer, faire ce qu'on fait.
Par exemple, pour vous, Baptiste, être à la fois
Sur scène. Vous écrivez un nouveau spectacle, vous ne pouvez pas le jouer, qui pourrait le jouer?
On a parlé de Guillaume Batz beaucoup dans votre tournée, à tous les trois, de votre lien et des blagues que vous êtes capables de faire encore après coup, notamment pour ses obsèques. Je vous invite à voir cette vidéo parce qu'elle est vraiment très... Elle est touchante,
Oui, c'est touchant, mais c'était notre façon à nous de matérialiser le fait qu'il n'était plus là et qu'il fallait en rigoler encore, mais c'était...
Fallait l'appeler pour vérifier s'il était bien là.
Non, mais en fait, c'est terrible, mais c'est la première fois que je perdais quelqu'un de proche. Et vous avez les groupes WhatsApp où les gens sont encore là. Et
qu'on n'efface pas.
On allait aux funérailles. Et il y avait Jérémy Arnaud et Guillaume sur le groupe et moi, et je savais que Jérémy Arnaud allait lire le message. Et en se rendant aux funérailles, j'ai envoyé sur le groupe Guillaume, t'es déjà arrivé ou pas?
Pour essayer de
faire rigoler les gens. Ça a bien marché. Donc c'est qui votre numéro 2?
Je dirais Florent Bernard, mais parce que.
Il faut qu'il accepte.
Il faut qu'il accepte parce que je ne pense pas qu'il voudrait jouer beaucoup de représentations, mais je lui demanderai de me prolonger.
Et vous, Erika?
Elisa, non, t'inquiète, je honnêtement, je sais pas du tout, je sèche un peu sur cette question.
Cameron Diaz.
Oui.
Pas mal. Pas mal.
La doublure pied. Les pieds.
Merci Mélodie Fontaine. Bravo.
Le Cinoche m'a fichu en l'air, les amis. Je dis le Cinoche pour être coolos, mais arrêtez-moi si je le suis trop. D'accord. Je l'aime, mais il m'a bousillé. Non, il m'a bousillé, regardez-moi, j'ai peur de tout à cause des films, tout. À cause des films de science-fiction, j'ai peur du temps. À cause des comédies romantiques, j'ai peur de l'amour. À cause des drames sociaux, j'ai peur des Belges. À cause de la bande originale, j'ai peur des comédies françaises. J'ai peur des masques, depuis Massacre à la tronçonneuse. Disneyland, pour moi, c'est Halloween. Des gens à l'intérieur d'animaux, mais quelle horreur. Ça me rappelle une seule soirée, cette histoire. Depuis ça, j'ai peur des clowns et tout ce qui a un nez rouge avec des grandes dents. J'ai bien du mal à me regarder dans le miroir. Je flippe de tout à cause des films, mais la somme de toutes ces peurs, et chaque été c'est pareil, c'est bien sûr les dents de la mer. Jaws. Jaws. Depuis, je ne peux plus me baigner dans une eau, sauf si elle est totalement translucide. Ça pose problème quand tu viens du Nord, quand même. Hein. Alors, c'est niette si je vois pas le bout de mon ongle. Et pourtant, je peux vous assurer que mon ongle est visible, même par temps couvert. Certains pêcheurs l'ont même confondu avec une palourde. Je le sais, je l'ai retrouvé sur le marché le lendemain, fourré à l'ail et au jalapenos. C'était délicieux. Mais c'est pas le sujet. Steven, mon vieux, tu m'as pourri mes vacances. Je mouille la culotte deux fois, quand je rentre dans l'eau et quand je rentre dans l'eau. J'ai si peur de me faire grignoter que ma main ressemble à un knacky ball, tu sais, je me retrouverai à écrire mes chroniques sur mon ordi avec un seul doigt, comme un policier, là. Qu'est-ce que ça m'a traumatisé, Jaws. Même quand je suis pas dans l'eau, tu sais, l'année dernière, je faisais du pédalo avec mon mec. Bon, j'aime les sports extrêmes. Et arrivé un peu au large, on arrête de pédaler et le gars me lâche. Tu trouves pas que pour un requin, on ressemble à une tortue vue du dessus? J'ai fait, mais enfin, quel est ton objectif, mon ange? Me pourrir, me détruire la vie? Ouais. Ça m'a rendu thalassophobe, cette histoire. La thalassophobie, c'est la peur des profondeurs. Pas de Georges Pernoud. Hein. Ensuite, ça m'a rendu...
Oh, c'est tranquille.
Ça m'a rendu aussi squalophobe. J'ai les chocottes devant tout ce qui a un aileron sur la tronche. Jules me terrifie. Et je m'en veux de les redouter parce qu'elles y sont pour rien, ces grosses sardines. On modifie leur habitat naturel, on les exploite et en plus de ça, on les diabolise. Les squales perdent sur tous les fronts. S'ils avaient un front. Ce serait très étrange d'ailleurs, un requin avec un front et avec des cheveux. Alors, ça me ferait peut-être moins peur, un requin avec des cheveux. Bref. Quand il y a une attaque, on les traque, on les bute et c'est pas sympa. Imaginez, on fait pareil avec des êtres humains, c'est complètement con. Massacrer un requin sous prétexte qu'un autre requin a bouffé un touriste. Hein ? En plus, vous pensez que les requins captent le message, ils vont les transmettre aux autres. Bon les gars, arrêtez de manger des petits cucus. Ouais, mais on adore ça, moi, les petits cucus. Des surfeurs, oui, mais manger des cucus, mais qui n'ont pas des shorts Quicksilver, d'accord ? Et d'accord, bref, j'ai peur, mais c'est comme ça. En plus, je suis con, j'en demande. Chaque année, j'ai envie de revoir Jaws. C'est normal, non ? Oui, ça rassure, parce que figurez-vous qu'un neurologue, le professeur Satput, quoi ? Mais non. Oui, Satput, oui, c'est pas un nom inventé, vous êtes vraiment des langues de pute. Il est américain. Et donc, le professeur Satput, heureusement qu'il est américain, parce que le collège n'aurait pas été easy peasy, à mon avis, il explique que si on aime regarder des films d'horreur, c'est parce que ça nous excite. Et ça nous rassure parce qu'une fois la boucherie terminée, le spectateur heureux dit ah bah au moins c'est du passé. Créer la peur et ensuite faire un câlin, c'est un peu un truc de pervers, ça, non? Faudrait pas que les gens le fassent dans la vraie vie, ce serait terrible. Bon, je vous laisse en paix, faut que je regarde un film qui a l'air super et en plus il risque pas de me foutre les chocottes, moi qui suis comédienne. Ça s'appelle Avignon. Je me demande bien de quoi ça parle. Allez, ça te pue tout le monde.
Merci. Mélanie Fontaine.
Au théâtre demain, au théâtre de l'œuvre le 26 juin à Nantes, et à la rentrée, vous la retrouverez au point virgule.
Allez voir, allez vous attendrir, allez rire, vous divertir avec ce film réussi signé Johan Dionnet, avec Johan Dionnet, Rudy Milstein, Constance Carlet, Elias Salem, Alison Wheeler, Amaury de Créancourt, Guillaume Cléris, et également nos invités Elisa Arca, Baptiste Caplin. Des excuses à présenter, Daniel ?
Allez, une excuse pour synthétiser tout ça. Désolé pour tous les comédiens du Off d'Avignon qui se sont sentis méprisés, stigmatisés, voire tambourinés par ceux du IN. Bon bah, venez sur France Inter, les gars, venez dans la BO. Ici, on est une vraie famille. Pas de jugement entre les cases, culture et divertissement, bien sûr. Comment on fait ça ? Eh ben, on parle pas de culture.
Merci Elisa. Merci Baptiste Gavin. Encore bravo Avignon demain au cinéma. Denis Brognard sera notre invité.